Bonjour. Mettre le cap sur l'horizon, c'est grisant, c'est sûr. Mais pour naviguer en sécurité, il faut vraiment comprendre un langage un peu spécial, celui des bouées, des balises et puis des cartes marines. C'est hyper important, qu'on soit skipper aguerri ou juste plaisancier du dimanche, j'ai envie de dire. Ce n'est pas juste une question technique, c'est vital. Aujourd'hui, justement, on se plonge dans les bases du balisage et de la lecture de cartes. On s'appuie pour ça sur les infos d'une source sérieuse, l'épisode 14 d'une série documentaire factuelle. Notre but, c'est de déchiffrer ensemble ce code visuel pour que tout le monde puisse s'en servir, que ce soit pour préparer une sortie, par simple curiosité, ou pour mieux comprendre un peu cet univers maritime. Alors on essaie de décoder tout ça.
Oui, c'est une très bonne idée. Parce que ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce système, c'est pas juste une pile de règles au hasard, hein. C'est un vrai langage visuel international. Il a été pensé pour qu'on le comprenne presque instinctivement. Imagine un peu le bazar si chaque pays avait ses propres panneaux maritimes. Heureusement, on a des conventions internationales, notamment celle de la SIM, l'Association internationale de signalisation maritime. Grâce à ça, on a un système qui est quand même largement unifié. C'est né en fait d'accidents passés, parce que les systèmes régionaux, ils prêtaient à confusion. Donc la logique derrière ces formes, ces couleurs, elle est vraiment pensée pour la clarté et la sécurité pour tout le monde.
D'accord. Alors commençons par ce qui ressemble le plus à nos panneaux sur la route. Les marques latéraux. Celles qui nous montrent les bords des chenaux, les chemins sûrs, quoi. La première chose à piger, c'est qu'il y a un sens conventionnel, comme une sorte de rue à sens unique virtuel, qui va toujours du large vers le port. C'est ce sens qui est la clé de tout.
Tout à fait. Et la règle de base quand on entre au port, donc en suivant ce sens conventionnel, elle est simple et elle est visuelle. On laisse les marques qui sont coniques et vertes sur tribord, c'est-à-dire à droite, et les marques cylindriques et rouges sur bâbord, à gauche. Vert tribord conique, rouge bâbord cylindrique. On peut retenir tricot vert pour tribord conique vert et barouille cylindrique pour bâbord rouge cylindrique, si ça aide.
Ah oui, des petits moyens mnémotechniques comme ça, c'est pratique.
Exactement. Mais attention, hein. Si on sort du port, on navigue dans l'autre sens. Donc là, on laisse les vertes sur bâbord et les rouges sur tribord. Faut toujours savoir si on entre ou si on sort. C'est crucial.
Ok, compris. Ça, c'est pour suivre le chemin principal. Mais des fois, le chemin, il se divise, comme une fourche sur une route. Comment le balisage nous dit quelle est la voie principale? Celle qui est souvent plus profonde ou plus directe? J'imagine qu'il y a un truc.
Absolument, c'est prévu. C'est là qu'intervient la marque de chenal préférée. Alors visuellement, c'est une marque latérale normale, soit verte conique, soit rouge cylindrique, mais elle a une bande horizontale de la couleur opposée en son milieu. Par exemple, une marque qui est surtout verte, donc conique, avec une bande rouge. Ça veut dire que le chenal principal est à tribord, donc on doit laisser cette marque sur notre bâbord, comme si c'était une marque rouge classique en fait.
Ah, d'accord.
Le chenal secondaire, lui, moins important, il est donc de l'autre côté, sur tribord dans ce cas. Et inversement, si la marque est surtout rouge avec une bande verte.
Ah, je vois le système. Donc, si je résume pour être sûr, la forme et la couleur principale de la marque me disent comment la traiter pour rester dans le chenal principal. La bande de l'autre couleur, c'est juste l'alerte. Attention, il y a une autre voie par là. C'est ça?
C'est exactement ça, la couleur principale, elle donne la règle de base pour la voie principale. C'est une manière assez maligne d'ajouter une info sans créer un tout nouveau type de marque super complexe.
Bien compris pour le guidage dans les chenaux. Mais la mer, elle cache aussi des dangers bien précis, des rochers isolés, des épaves. Comment on nous alerte sur ces obstacles-là? C'est un autre type de marque, j'imagine.
Effectivement, là on passe aux marques cardinales. Leur boulot est différent. Elles ne balisent pas un chenal, non. Elles signalent un danger et surtout, elles indiquent de quel côté il faut passer pour l'éviter sans risque. Leur nom, c'est l'instruction en fait. Une marque cardinale nord, ça veut dire qu'il faut passer au nord de la marque pour être en sécurité. Le danger, il est donc au sud de la marque.
Logique.
Une cardinale sud, faut passer au sud, le danger est au nord, etc. C'est direct. Le nom dit où passer.
D'accord. Mais visuellement, elles se ressemblent peut-être un peu toutes, jaunes et noires, avec des cônes au sommet. Comment on fait pour les différencier rapidement, surtout si la visée est pas top ou qu'on est un peu loin?
Ah, c'est là que leur conception est vraiment intelligente et mnémotechnique. Elles sont toutes jaunes et noires, oui. Le secret, c'est la position du noir et la direction des deux cônes qu'elles ont au sommet. Pour s'y retrouver, facile. Nord, pense, nord égale haut, simple. Les deux cônes pointent vers le haut Et la bande noire, ben, elle est en haut aussi.
D'accord. Haut, haut.
Sud. C'est l'inverse. Pense sud égale bas. Les deux cônes pointent vers le bas. La bande noire est en bas.
Logique.
Est. Là, imagine un œuf, comme la forme. Les cônes forment un O ou un œuf, quoi. Pointe opposée, un vers le haut, un vers le bas. Et le noir, il est en haut et en bas, comme les bouts de l'œuf. Ouest. Là, pense à un W, ou à deux verres à pied qui se touchent par la base. Les cônes pointent l'un vers l'autre, sommet contre sommet. Le noir, lui, il est au milieu. Ça forme une sorte de W couché avec le jaune.
Ah oui, je visualise bien.
Voilà. Cette combinaison couleur et cône, ça permet vraiment de les identifier vite, même d'assez loin, et ça rappelle tout de suite de quel côté il faut passer.
Ok. C'est vrai que cette approche avec les images, ça rend les choses beaucoup plus claires que de juste lister des caractéristiques. C'est plus facile à mémoriser. Bon, au-delà des latérales qui guident et des cardinales qui alertent sur les dangers autour, est-ce qu'il y a d'autres signaux importants à connaître ?
Oui, il y a quelques autres marques qui ont des rôles spécifiques, mais vraiment cruciaux. D'abord, il y a la marque de danger isolé. Elle, elle est plantée pile sur ou vraiment tout près d'un danger bien délimité, genre un unique rocher dangereux. Elle est noire, avec une ou plusieurs bandes rouges horizontales, et son sommet est très facile à reconnaître. Deux sphères noires l'une au-dessus de l'autre. Son message est simple. Gaffe, danger juste ici. Évite ce point précis.
D'accord. Très spécifique, celle-là.
Tout à fait. Et à l'opposé, on a la marque des eaux saines. Ça, c'est un peu le signal « tout va bien » de la mer. Elle est rayée verticalement de rouge et de blanc, avec une sphère rouge tout en haut. Elle indique que les eaux sont profondes et sans danger tout autour d'elle. On la trouve souvent à l'atterrissage, quand on arrive du large ou en milieu d'un chenal très large. La voir, en général, c'est rassurant. C'est un peu le feu vert, quoi.
Le feu vert de la mer, j'aime bien l'image.
C'est un peu ça. Et puis, il y a une situation qui demande une prudence vraiment maximale. C'est le signalement d'un danger nouveau et grave. C'est souvent une épave très récente ou un obstacle apparu soudainement qui n'est pas encore sur les cartes. Et là, la source qu'on a consultée précise que ce type de danger est signalé par le doublement d'une marque standard existante.
Le doublement, c'est-à-dire ?
Concrètement, tu vas voir une marque normale, souvent une cardinale ou une latérale, qui indique déjà le danger. Et juste à côté, à quelques dizaines de mètres, une deuxième marque identique. Voir deux marques identiques si proches l'une de l'autre, c'est un signal d'alerte rouge vif. Ça veut dire danger tout récent, potentiellement pas sur la carte, vigilance absolue. Le fait de doubler la marque, c'est vraiment pour attirer l'attention très fort sur le côté anormal et grave de la situation.
Ok, ça, faut vraiment l'avoir en tête. Donc, ces balises nous donnent des infos en temps réel, dynamiques, sur l'eau. Mais elles prennent tout leur sens seulement avec leur complément, l'outil indispensable, la carte marine. C'est elle qui nous donne la vue d'ensemble, le contexte, non ?
Exactement. Les deux vont ensemble. C'est indissociable. La carte marine, c'est la carte routière de la mer et de la côte. Elle aussi, elle utilise un code couleur standardisé pour décrire le paysage, celui qu'on voit et celui qui est caché sous l'eau. Les bases, rappelées par notre source, sont assez simples. L'ocre ou le jaune, ça c'est la terre ferme, celle qui n'est jamais recouverte par la mer, même à la plus grande marée haute.
D'accord.
Le vert, souvent un vert un peu grisâtre, ça c'est l'estran. Cette zone super importante qui se découvre quand la marée est basse, mais qui est sous l'eau à marée haute. La navigabilité de ces coins-là dépend complètement de l'heure de la marée.
Ah oui, crucial ça.
Oui, un passage qui semble sûr à marée haute peut être un piège plein de rochers ou de vases quelques heures plus tard. Faut vraiment faire gaffe avec l'estran. Le bleu et le blanc, ça représente les fonds marins qui sont toujours sous l'eau. Les différentes teintes de bleu indiquent la profondeur, souvent. Plus c'est foncé, plus c'est profond. Mais faut toujours vérifier la légende de la carte. Attention. Le blanc, lui, est utilisé pour les zones où il y a très peu d'eau, ou les hauts fonds qui se découvrent carrément aux plus basses mers. La carte, en fait, elle raconte vraiment l'histoire du relief sous l'eau. Elle indique les profondeurs, les chiffres qu'on voit, ce sont les sondes, les dangers, comme les épaves, les roches, avec des symboles spécifiques, et bien sûr, elle montre le tracé des chenaux avec les balises qu'on vient de voir.
Et concrètement, pour quelqu'un qui navigue sur un petit voilier, un dériveur, sans forcément avoir le GPS dernier cri ou un lecteur de cartes électronique super sophistiqué, comment on utilise tout ça de manière pratique ? J'imagine que la lecture à l'ancienne a encore toute sa place.
Et comment ? Sur ces bateaux plus légers, on navigue beaucoup plus à vue, en se servant directement du paysage et du balisage qu'on voit. Et c'est là qu'une technique fondamentale entre en jeu, celle des alignements. L'idée, c'est d'utiliser deux points de repère fixes et bien identifiables à terre. On appelle ça des amers.
Des amers ?
Oui. Ça peut être un clocher d'église, un château d'eau, un phare, une balise particulière. Des éléments bien visibles et surtout qui sont indiqués sur la carte marine. Quand, depuis le bateau, on voit ces deux amers parfaitement l'un derrière l'autre, superposés, eh bien on sait qu'on se trouve exactement sur une ligne droite qui est tracée sur la carte. Les cartes indiquent souvent des alignements recommandés, parfois ils sont dessinés avec des lignes ou des symboles spéciaux. Ces alignements définissent une route sûre pour entrer dans un port, suivre un chenal étroit ou éviter des dangers qui sont juste à côté.
Ah oui, c'est malin ça.
C'est une méthode extrêmement fiable, qui ne dépend pas de l'électronique, juste de bons yeux et d'une bonne carte. C'est le fameux système D, ingénieux et éprouvé des marins depuis toujours.
C'est fascinant de voir comment ces systèmes visuels anciens et modernes s'imbriquent. Si on devait résumer un peu l'essentiel de notre exploration, on a d'un côté le balisage qui agit comme une signalisation dynamique sur l'eau. Il nous guide avec les latéraux, nous alerte des dangers proches avec les cardinales ou le danger isolé, ou nous rassure avec les eaux saines. Et de l'autre côté, on a la carte marine qui nous donne la vue d'ensemble statique, le contexte géographique et tous les détails du relief sous-marin. C'est un peu ça ?
Langage visuel, ce n'est pas une option, c'est la condition sine qua non d'une navigation responsable, pour soi et pour les autres sur l'eau. Savoir interpréter une bouée ou lire une profondeur sur une carte, ça apporte une confiance qui est indispensable. Et quand on prend un peu de recul, on réalise que c'est ce système standardisé, fruit d'une coopération internationale, parfois compliquée mais essentielle, qui permet à des milliers de navires, de toutes les tailles, de circuler et d'éviter des catastrophes tous les jours sur toutes les mers du monde. Sans ce langage commun, la navigation moderne serait juste impensable.
Au final, apprendre à lire le balisage et la carte, c'est vraiment apprendre à parler avec la mer, à comprendre ses avertissements, ses invitations. Une compétence qui transforme l'appréhension en sérénité et qui rend l'expérience en mer tellement plus riche et plus sûre aussi.
Absolument. Et ça ouvre une réflexion plus large d'ailleurs. Au-delà du monde maritime, on pourrait se demander comment d'autres systèmes complexes de notre quotidien fonctionnent. Je pense au trafic aérien, avec ses couloirs, ses codes transpondeurs, ou même la signalisation routière universelle, ou l'architecture des réseaux informatiques avec leurs protocoles standardisés. Tous ces systèmes dépendent eux aussi de langages codifiés, souvent visuels ou symboliques, pour garantir la sécurité et l'efficacité à grande échelle. Comprendre comment et pourquoi la communauté maritime mondiale a réussi à établir et à maintenir ces standards, malgré les différences culturelles, les enjeux économiques, ça pourrait nous en apprendre beaucoup sur l'importance vitale et parfois invisible de ces conventions partagées dans notre monde si interconnecté. Qu'est-ce qui fait qu'un langage visuel devient universellement accepté et efficace ? C'est une question intéressante, non ?
Une perspective passionnante, en effet, qui invite à regarder notre environnement avec un œil différent. Merci d'avoir suivi avec nous cette exploration des clés de la navigation maritime.